Radio Classique, grand témoin. Il est ancien gouverneur de la province du Cas Occidental et ancien conseiller du chef de l'État en charge de la territoriale et décentralisation. Benoît Janvier, Chibobwa, Katia Kaloubi est celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Benoît Janvier, Chibobwa, Katia Kaloubi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour, madame.
Avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. Donc, vous qui êtes au centre de notre entretien, vous allez partager avec nous votre expérience professionnelle et politique. Mais nous mettrons beaucoup plus l'accent sur votre gestion de la province du Kasaï occidental, une province aujourd'hui qui connaît beaucoup de problèmes de gestion, il faut le dire. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une petite biographie de vous. Vous naissez un certain 16 juin 1954 à Kananga.
Exactement.
C'est là où vous grandissez?
Exactement. J'ai grandi toute ma jeunesse à Kananga jusqu'à la fin de mes humanités, mes études secondaires. Oui.
Pour venir continuer l'université à Kinshasa?
Non, au contraire, c'est Kassapa.
À
Lubumbashi, justement. J'ai été à Lubumbashi aux environs des années 1973 et j'ai quitté Lubumbashi en 1977 en qualité de licencié en relations internationales.
Pourquoi avoir choisi cette option?
Enfin, mon parcours vers les sciences sociales était un peu particulier parce qu'en fait, aux humanités, j'ai fait les humanités scientifiques. C'est peut-être le destin qui m'a amené là-bas. J'étais allé à Lubumbashi en fait pour faire les études de médecin vétérinaire. Et arrivé à Lubumbashi, j'ai rencontré des amis qui m'ont dissuadé de faire cette science-là. C'est ainsi que j'ai opté pour faire les sciences sociales, donc relations internationales, avec l'ambition de devenir ambassadeur, fonctionnaire international. Voilà, c'est à quoi j'aspirais.
Quel souvenir vous gardez de votre Kananga natal?
Ah oui, ça. À mon époque, pas en qualité de gouverneur.
Non, je parle de votre époque. En grandissant.
En grandissant, c'était une très très belle ville. Une ville coquette, une ville très propre, très illuminée, une ville très très stable, qui donne la paix, la joie de vivre.
Il y avait du courant?
Totalement, 24 heures sur 24. Je ne savais même pas d'où ce courant venait. C'est peut-être avec ma qualité de gouverneur que j'ai découvert que ce n'était que des groupes thermiques qui nous permettaient d'avoir ce courant 24 heures sur 24.
Vous avez grandi dans de bonnes conditions?
Très, très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Je me souviens qu'à l'époque, nos aînés qui étaient en formation en Belgique et qui étaient originaires, dont les parents étaient à Kananga, à Luabo à l'époque, quand ils quittaient la Belgique, ils ne s'attardaient jamais à Kinshasa. Ils descendaient directement à Kananga parce qu'il faisait bon vivre là-bas.
Et aujourd'hui?
Je ne sais pas porter un jugement, ça fait pratiquement 15 ans. Je suis retourné à Kananga aux environs des années 2003, à l'occasion du décès de mon père. J'ai trouvé que la ville était relativement propre, hein, après mon départ, parce qu'à l'époque, je n'étais plus gouverneur de province, j'étais à la présidence de la République. Bon, j'ai trouvé que la ville était relativement propre, mais sauf qu'il y avait toujours ce récurrent problème du courant électrique et de la desserte en eau potable.
Benoît Janvier, Chibobwa est marié?
Oui, je suis marié et pour le moment, en séparation.
Père combien d'enfants?
Un enfant, oui.
Un enfant?
Un seul, oui.
Mais c'est rare de voir un cassin avoir un enfant.
Bon, enfin, c'est en fait aussi un résultat de la jeunesse, en fait, c'est ce que.
Voilà, parlons de votre parcours politique. Comment vous vous retrouvez dans la politique?
C'est comme je l'ai dit tantôt. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille politique parce que je suis issu d'un pouvoir traditionnel. Et comme vous le savez, depuis l'indépendance du Congo, le pouvoir traditionnel a toujours joué un rôle prépondérant dans l'évolution politique du Congo. Mes parents étaient là-dedans. Mon père était même, à une certaine époque, conseiller urbain. Donc, je suis né là-dedans. J'ai eu des oncles membres de partis politiques, députés, ainsi de suite. Et c'est ainsi que, bon, je me suis retrouvé comme par destin dans la politique, comme je l'ai dit. J'ai commencé par les sciences, et je me suis retrouvé en sciences sociales et en politique comme ça, voilà.
Et vous aimez la politique?
Sûrement, on ne peut pas faire la politique sans aimer. Moi, j'aime bien.
Il y en a qui font la politique par contrainte?
Non, moi, je ne pense pas que j'ai pu décider de faire la politique par contrainte. Au contraire, j'ai trouvé que c'était pratiquement mon destin, parce que beaucoup de mes copains sont aujourd'hui médecins, d'autres sont ingénieurs, d'ailleurs. Bon, moi, je me suis retrouvé en politique comme par destin, quand vous décrivant ce parcours que j'ai dû faire en quittant le Kananga pour le Bombassi. Mais c'est pas par contrainte, mais je croirais aussi, je peux aussi affirmer que c'est avec l'évolution de ma carrière. Quand vous regardez de près ma bibliographie, vous verrez que je vais aux côtés des hommes politiques. J'ai été conseiller de cabinet, des ministres, j'ai été conseiller chef de cabinet du gouverneur de province. Et c'est par cette évolution normale de ma carrière que je me suis retrouvé moi-même dans la politique et à partir de ma famille aussi, comme je l'ai dit.
Parlons de votre passage à la tête de la province du Conseil occidental.
Je vous en prie.
Vous avez été nommé gouverneur en 1994.
Exactement.
Vous avez passé 3 ans à la tête de cette province.
Officiellement 2 ans et une année à Kinshasa, parce qu'il y avait à l'époque l'habitude de retenir les gouverneurs en consultation. Des fois, on passait une année comme ça en consultation. Mais effectivement, 2 ans à la tête de la province et une année en consultation avec Kinshasa.
Quel bilan vous dressez de votre gestion de cette province? C'est vrai que c'est difficile que vous puissiez dresser le bilan vous-même. Au moins, vous pouvez avoir une idée de ce que vous avez fait de cette province.
Bon, oui, en fait, c'est difficile de parler de soi ni de son bilan. C'est même pas très, très élégant. Lorsque je suis arrivé à la tête de la province du Conseil occidental, vous savez que c'était pendant la période de transition, la première partie de la transition, et le Conseil occidental était un des bastions de l'opposition. Et il y avait des tensions à tout moment. Et quand je suis arrivé, ma première préoccupation avait été d'apaiser cette tension en appelant tout le monde autour de la table, en disant chacun a droit au chapitre, l'opposition comme le pouvoir. Donc j'ai réussi à engager un dialogue franc et sincère entre les différents partenaires politiques de la province, ce qui a apaisé le climat de tension toutes les années avant mon avènement. L'autre préoccupation que j'avais quand je suis arrivé à la tête de la province, ça se connaissait déjà la situation de la province, parce que j'ai suivi la situation de la province comme cadre de cette province. Je me suis occupé essentiellement de questions primaire, c'est-à-dire qu'il fallait donner les conditions de vie normales à cette population. Je me suis attelé à examiner la question de l'électrification du Kassai.
Vous avez des projets de développement pour la province, mais qui n'ont pas abouti.
Oui, effectivement, parce que la première condition pour la réalisation de ces projets, c'est l'électrification de la province. Tant que l'énergie n'a pas d'énergie électrique, on ne peut pas parler de développement réel, mais résoudre les problèmes immédiats de la population. J'ai dû m'en occuper, je suis attelé à l'approvisionnement de la province en produits pétroliers, en nettoyant le chemin de fer qui était triste et fermé Bayouda, et j'ai réussi à combattre la hausse des prix par cette voie parce que la région était approvisionnée comme je le veux. Et je me suis occupé aussi des problèmes de communication parce que quand j'arrivais à la province, ni la radio nationale, ni la radio privée, il n'y a plus de radio qui fonctionnait. Et je me suis battu pour la réhabilitation de la station terrienne et appuyé vos collègues de la radio nationale avec les moyens du bord. Et on a relancé la communication au niveau de la province, on a désenclavé la province en fait. Et en même temps, j'ai dû soutenir, je suis à la base de la promotion de la radio-télé Kassai Horizon. Je me suis occupé aussi de la question sécuritaire, c'était aussi très, très primordial, il y avait plein de barrières. Vous savez qu'à l'époque, c'était la question de la consommation de la monnaie, le Kassai constituait une zone monétaire à part. Mon prédécesseur avait engagé le corps à corps quand je suis arrivé. Je suis passé par la persuasion, j'ai dû démontrer les méfaits de cette zone à la population qui avait commencé à ce moment-là à consommer simultanément les deux monnaies jusqu'à faire disparaître l'ancienne monnaie. Donc il y avait tout un tas de questions comme ça sur lesquelles je me suis appuyé.
Et là, vous parlez des bonnes réalisations faites dans la province.
Enfin, on ne peut pas parler de mauvaises choses, je ne sais pas si
j'ai. Oui, les mauvaises choses qui parlent, que vous avez vendu les maisons de l'État.
Ah, enfin, bon, ça, cette affaire-là, bon, j'en parle dans un ouvrage beaucoup plus approprié. Et je sais que j'étais interpellé sur cette question. Au contraire, je suis de ceux qui ont réhabilité l'État dans son patrimoine. Donc ces choses ont été faites par mes prédécesseurs. Pas par mon prédécesseur immédiat, mais par les anciens prédécesseurs. Il y avait les ministres de portefeuille qui déplaçaient les maisons de l'État, qui les vendaient aux gens. J'ai constitué une commission provinciale de contrôle pour analyser et voir si acheter était-il en règle d'acheter, alors que le gouvernement central n'abordait pas la question de cette façon-là. C'est simplement parce que nous ne sommes pas mis d'accord avec le gouvernement que j'ai été accusé d'avoir vendu les maisons. Au contraire, c'est moi qui ai restitué l'État congolais dans son patrimoine. Il y a eu de toute façon la commission qui est venue avec Moïse Kabila, qui était de bien qui n'a jamais été cité là-dedans, et puis il y avait l'Obema, qui est rentré sur Kananga, dans la province, vous avez dans le rapport de l'Obema, mon nom n'est pas cité là-dedans, donc c'est pour dire
en fait,
que... Bon, vous savez, c'était la guerre politique de l'époque, hein, quand il fallait trouver un dossier pour vous salir, un peu, bon, c'est des choses qui arrivent en politique. Vous savez, on ne peut pas diriger une province sans avoir un dossier sur le dos, soit. Si vous sortez sans dossier, c'est que vous n'avez jamais rien fait. C'est-à-dire, c'est un vieux politicien qui me disait ça, et dit, vous savez, quand on a droit à l'honneur, on a aussi droit à la critique.
Nous avons mené notre petite enquête à Kananga. On s'aperçoit que vous étiez très aimé des Kananguais, quand même.
Oui.
On m'a même laissé entendre que les week-ends, souvent, vous vous promenez en culotte de chez vous jusqu'à chez vos parents.
Non, pas jusque-là, quand même.
Je veux dire.
Oui, en fait, j'étais en relax. Moi, je suis né à Kananga, grandi à Kananga, quand j'étais enfant de la ville et de la province. Et comme je vous ai dit, je suis d'une très grande famille. J'ai des relations dans toute la province. Bon, je me sentais à l'aise, j'étais chez moi. C'est pour cela que je n'avais pas besoin d'être liberté. Et surtout que la population était heureuse de voir un jeune homme à l'époque. J'avais à peine 38 ans, 39 ans quand j'occupais la pension. Et je me sentais à l'aise. Je me promenais, j'allais au stade. Il m'arrivait d'aller rencontrer des vieux copains qui ont grandi avec moi, des familles qui se connaissaient.
Mais c'est proche de la population.
Exact. Je participais dans des deuils, j'allais au stade de football, j'allais dans des messes écuméniques, j'allais dans des sacres de prêtres. J'étais là, disponible, quoi, comme en rapport avec sa population. Mais comment gérer une population avec laquelle vous n'avez pas contact?
On va suivre ce témoignage.
Je vous en prie, il y en a.
Ce témoignage des gens qui ont travaillé avec vous.
Ah, bah, c'est
bien. Vécu avec vous.
Ah là, c'est bien senti, c'est bien longtemps.
Je m'appelle Moussa Marceline, je suis sur mon cousin. Je travaillais avec lui en 1994, l'autre a été nommé gouverneur du Kassai occidental. C'était un homme très intelligent, un homme assidu au travail, qui est de l'ordre, qui fait de l'ordre, et puis souvent il est ferme dans les décisions qu'il prenait. Pendant que je travaillais avec lui, et chaque personne a des qualités et puis il a des défauts et il est un peu colérique, nerveux. Je sais, pendant le temps qu'on ne comprenait pas rester ensemble, je pense qu'avec la parole de Dieu, ça l'a un peu transformé, quoi.
Je m'appelle François Mba Ngalamboulou, avocat de profession. C'est la cour d'appel de Kananga. Ce qui est vrai, en son temps, vers les années 1994 jusqu'en 1996, j'étais membre du cabinet du gouverneur Tshibobwa, Kassai Kalulu. Je me rappelle quand je suis parti du cabinet, j'étais le chargé des missions et secrétaire particulier. Ce qui est vrai, c'est que d'abord c'est un monsieur très social. Il était aimé de la population du Kassai occidental.
Et je me souviens qu'il a été même baptisé Tshibobwa le sauveur, Tshibobwa Vidja, ça veut dire son fou. Et bref, quand il apprenait quelque chose de négatif, tout de suite il ne vous le dit pas. Il vous observe, et quelques jours après, ils ont fait sa tête à deux, il vous pose le problème.
Tshibobwa le sauveur, Tshibobwa Vidja, vous avez apporté la nourriture au peuple kassaïen.
Non, vous savez, j'ai un peu de larmes aux yeux, je sais.
On ne peut pas le voir.
C'est la première fois que j'entends parler de moi comme ça par des gens qui m'ont connu. Sur place, effectivement, on a passé de bons moments à Kananga. On avait l'envie. Vous savez, quand on est jeune, on a toujours l'envie de mieux faire, de bien faire pour son pays, pour sa province. Et je crois que c'est ce qui m'animait à l'époque. Et j'étais supposé dans la mesure des moyens du moment. Hein. Et effectivement, quand on parlait de sauveur ou de Vidja, c'est en fait, c'est des faits précis, comme je vous ai dit. Je ne peux pas diriger un bilan avec de grosses infrastructures de base, mais je sais ce qui devait être fait à ce moment-là, avec les moyens que j'avais. Et ce qui était essentiel, c'était effectivement de sécuriser la population, de nourrir la population, de pousser la population à se prendre en charge. Et je vous avoue qu'à l'époque, je souligne, les intervenants qui sont intervenus n'ont rien dit sur les restaurés. J'ai été, en fait, porté dans mon succès par les restaurés du Katanga. Ces hommes et femmes étaient très ingénieux, ils avaient amené chacun un instrument de travail. Et ils ont donné la vie. Et la vie avait repris à Kananga à cause de ces reflux. Et je les encadrais, je les soutenais, je les accompagnais dans toutes leurs initiatives. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelqu'un qu'on appelait Tancombe, excusez-moi de le citer, il est décédé. Cet homme a ramené la brique cuite dans le Kassai. Il construisait par un moment 3-4 villas dans 3 mois. Et on a, les Kassai ont appris à reprendre la brique cuite, alors que dans le temps, ils utilisaient le bloc ciment. On parle aujourd'hui du stadium de l'Espoir, je crois que c'est un de mes prédécesseurs qui a dénommé ce stadium comme ça, mais ce stadium a été construit à mon initiative, parce qu'à l'époque, on les a organisé le championnat de basket à Kananga. J'ai aussi, avec le concours de toutes les petites entreprises qui étaient disponibles à Kananga, les Nibra particulièrement, Tabac Congo à l'époque, Tabac Zaïr, et j'ai associé ces gens en disant, écoutez, mettons quand même un terrain digne de ce nom pour ce championnat. Et c'est cela, le stadium de l'espérance, tel que l'a été nommé, mais à mon époque, il y a un journaliste, un de vos collègues qui a appelé ça stadium, qui va avoir café à l'objet, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Bon, c'est dans mon dos. Mais il y a eu beaucoup de choses comme ça.
Il est très colérique.
Non, ben enfin, bon, oui, disons que là, je ne suis pas colérique, je suis ferme dans mes prises de position, en fait. Les gens, peut-être, me connaissent. Je prends du temps. Je prends du temps pour m'énerver. Je prends du temps pour taper du poing sur la table. Bon, ça, c'est juste, j'ai un homme qui encaisse énormément. Mais quand ça arrive à la limite, je dis, bon, là, arrêtez. Et j'affirme ma position. J'affirme ma position fermement, mais pas trop colérique comme l'autre l'a dit. Et puis maintenant, là, j'ai 56 ans, 57 ans bientôt. Bon, j'ai appris à, des fois, me taire devant certaines situations difficiles, quoi.
Pourquoi jusqu'à ce jour on n'arrive pas à résoudre le problème de l'électrification de cette province, Benoît Tshibwaba, vous qui avez été gouverneur de province? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque?
Bon, disons, c'est difficile de parler de ça comme ça en disant que c'est ça qui bloque. Parce que il y a plusieurs événements et plusieurs circonstances qui font que ce projet patauge jusqu'aujourd'hui. Je peux dire à mon époque, à moi, je crois essentiellement nous avions pris une approche populiste qui n'était pas très bonne, qui gênait sûrement le pouvoir en place de l'époque, qui ne nous avait pas donné cette électrification, en disant que nous allons de manière autonome le faire nous-mêmes. Et rappelez-vous que c'est à l'époque des Réfugiés du Sabah. Alors imaginez-vous que les Kassaïens se soient pris en charge, construisant eux-mêmes leur barrage. Les gens pensaient qu'ils allaient peut-être en arriver à la demande de l'autonomie ou des choses comme ça. Et puis, la gestion même du projet, comme vous savez, c'est un projet qui était géré par une ONG, Codesco. Et c'est Codesco qui était le maître de l'ouvrage. Dans le fond, la province n'intervenait que comme appui. Et je crois que là aussi, il y a eu une question d'approche, parce qu'on est parti d'abord de la construction d'un barrage, pour arriver à la conduite de l'eau par les pipelines, qui était une approche que moi j'avais suggérée avec le groupe sud-africain que j'avais consulté. Et toutes ces choses-là ont fait que bon, il y a eu des divergences de vues, des divergences d'approche, et ça bloque. Et puis, il y a le problème, ok, c'est celui de l'argent. À mon époque, le gouvernement avait effectivement débloqué 1 million de dollars pour appuyer la cotisation qui était faite par la population et par les grandes entreprises installées dans le Kassai. On était autour de 3,5 millions sur les 7,5 millions qu'on devait débloquer pour faire les pipelines avec les Sud-Africains. Mais il se fait que le maître de l'ouvrage avait posé de nouvelles conditions à ces Sud-Africains après que nous ayons signé un accord avec ces Sud-Africains en Afrique du Sud. Et ces Sud-Africains n'ont pas accepté ce changement de conditions, ils se sont retirés. Et c'est comme ça qu'à mon époque, ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, après moi, pourquoi ça ne se résout pas? Je ne sais pas exactement dans quelles conditions ça se traite, mais j'ai cru entendre qu'il y a une nouvelle approche que le gouvernement de la République du Congo s'est impliqué, qui a encore un fils de Kassai qui s'est impliqué, qui a trouvé des investisseurs qui pourraient nous aider à avoir ça. Je crois que le grand problème, c'est qu'il faut que le gouvernement central s'implique. Si le gouvernement central s'implique, donne des garanties, donne une contrepartie, je crois que ça peut aller assez rapidement.
De la province du Kassai occidental, on vous retrouve à la présidence de la République. Mais là, c'est en 2002, oui. Vous êtes nommé conseiller du chef de l'État en charge de la territoriale et de centralisation. Exact. Et entre 1996 et 2002, qu'est-ce que vous avez fait?
Oui, bon, ça, comme tout homme qui quitte un mandat politique, j'ai dû prendre un temps de repos un peu pour faire le point avec moi-même, avec la marche. Mais quand Laurent Désiré Kabila est entré, j'ai été récupéré dans un conseil d'administration à Lusaka, à l'époque, l'OCC aujourd'hui, vers les années 98, 99. jusqu'à l'arrivée de l'actuel président de la République en 2001.
On va récupérer facilement, vous qui avez travaillé avec le maréchal.
Oui, c'est pour vous dire que moi...
Vous n'avez pas été
Non. Vous savez, moi, je vais justement vous dire une chose, je me dis toujours, moi, je ne suis pas un politicien, en fait. Je peux me qualifier de grand commis de l'État. Je ne suis pas un politicien du type politicien. Donc, moi, j'ai travaillé avec trois chefs d'État. Hein. Donc, j'ai travaillé sur Mobutu, j'ai travaillé sur Moïse Kabila, j'ai travaillé sur Joseph Kabila. Donc, vous voyez que je n'ai pas de problème particulier avec la personne du chef de l'État qui vient ou qui était là. Parce que je suis un grand commis de l'État, j'ai été récupéré. Pour cela, pour mon expérience, je n'ai pas été inquiété aucunement.
Et en 2002, c'est le président Joseph Kabila qui vous récupère, qui vous nomme conseiller.
Dans le fond, j'ai été récupéré par l'équipe qui a encadré le chef de l'État à l'époque, particulièrement le professeur Samba, pour qui je voudrais saluer la mémoire ici, parce que en fait, le professeur Samba, c'est lui qui m'a engagé dans la fonction publique, sous l'entrée avec lui dans la fonction publique. J'étais son collaborateur direct depuis 1978. C'est lui qui m'a accompagné dans toute ma carrière politico-administrative. Et quand le président de la République leur avait demandé de constituer son nouveau cabinet, et il leur avait fixé des critères. Ces critères-là, en cherchant des hommes d'expérience, des hommes des commis de l'État, des grands commis de l'État qui avaient la maîtrise des dossiers, que j'ai été sollicité par la haute direction du bureau du chef de l'État et j'ai accepté le principe de collaborer comme conseiller en charge des questions territoriales.
Vous êtes expert en questions territoriales et de centralisation.
Oui, en fait, de par ma formation universitaire et mon expérience administrative et beaucoup de stages que j'ai effectués parce que à la fonction publique, j'ai effectué énormément de stages en Europe, j'étais à l'Institut international de l'administration publique de Paris, j'étais à la Commission d'administration du Canada, au Québec. Donc en fait, j'étais de toutes les commissions interministérielles au Congo entre 80 et 87, avant d'aller en province avec mon professeur Samba comme président directeur de cabinet en 88. Donc je suis parmi les gens qui ont suivi toutes les grandes réformes en République démocratique du Congo et c'est dans ce titre-là, avec ce stage et ces spécialisations que j'ai effectué, que j'ai pu affirmer et j'espère effectivement en question de l'administration publique et de la politique publique.
En 2003, vous quittez le pays.
Oui.
Et moi, j'ai été voir pour une mission en Europe.
Oui.
Et puis, d'après, j'en ai revenu.
Oui. En fait, dans le fond, je suis parti d'ici en qualité de conseiller du chef de l'État. Hein. J'ai mon passeport de service comme conseiller du chef de l'État. Si vous allez en mission, j'avais au niveau de la présidence de la République, dans le cadre de mes attributions, initié trois projets. Un projet sur un grand colloque sur la décentralisation et la prévention des conflits en République démocratique du Congo. Le deuxième projet concernait la réforme et la modernisation de l'administration de l'État. Et le troisième projet concernait une commission scientifique pour la préparation des élections, les élections de 2006. Alors moi, je pensais qu'on pouvait anticiper au niveau du chef de l'État et préparer ces éléments, avoir des matériaux techniques et scientifiques disponibles pour que, avec les nouveaux législateurs ou les nouveaux députés, qu'on puisse mettre cela sous forme de loi, coller cela sous forme de loi. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais sillonné mon pays. Bon, après... je suis arrivé en Belgique en octobre 2003. J'y suis resté jusqu'en février. Ça allait encore dans mes rapports avec mes chefs hiérarchiques de l'époque. Mais après février 2004, j'ai senti que nous... on ne m'accompagnait pas dans mes projets. Et alors qu'à mon recrutement, il m'avait été dit que le chef de l'État vous a choisi parce que vous avez de l'expérience. Et je pensais mettre mon expérience à l'exécution du chef de l'État. Et je ne sentais pas que c'était cela et qu'on voulait me ramener au rôle de simple rédacteur. Et c'est cela qui m'a décidé de rester et poursuivre mes recherches dans ce que j'avais déjà amorcé.
J'ai testé, vous avez démissionné ou bien ?
Je n'ai jamais formulé une démission comme telle, mais mon absence faisait que le président a pris acte de mon absence.
Il n'a pas prolongé l'enregistrement.
Exact. Donc, mais disons, il était justifié parce que j'étais parti en mission. C'est tout simplement parce que je ne voulais pas engager un bras de fer avec mes anciens chefs de l'époque. Et il y a eu peut-être une mauvaise information qui avait été transmise au chef de l'État. On m'a qualifié de déserteur tout bonnement. Hein. Et c'est ainsi qu'en 2005, malgré le fait que j'avais été reconduit, au moment où j'étais absent du pays, j'avais été reconduit, réaffecté au collège chargé de relations avec l'Assemblée nationale. Donc, c'est que j'étais reconnu comme, en fait, quelqu'un qui était en mission de la présidence de la République. Comme ça a duré, qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord
avec une séférance, c'est-à-dire la haute direction de la présidence de la République, c'est pas le chef de l'État, mais avec les responsables de la direction. Bon, j'ai décidé, j'ai dit, que je préférais rester poursuivre ma recherche, comme j'étais déjà lancé, et que, bon, ils pouvaient prendre ma liberté, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez fait de tout le travail que vous êtes allé faire à l'étranger?
Bon, enfin, je suis en train de culminer ce travail en une thèse de doctorat, en espérant que cette thèse pourra servir un jour mon pays.
Depuis 2003, nous sommes en 2011 aujourd'hui, 8 ans après, vous revenez au pays. Mmh. Pour quelles raisons?
Je suis retourné au pays pour deux raisons. Je retourne essentiellement pour la recherche, en rapport avec ma thèse de doctorat. Donc, je suis là, je travaille avec deux professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Bamiyarkou et le professeur Mwebwa Kalala. Je parle des questions de la motivation de vote dans le Kassai en 2005-2006. Donc, je devrais aller voir comment ça s'est passé, que ce soit au niveau de référendum, de consultation référendaire.
Une question, est-ce que vous voulez vous interrompre par rapport aux élections de 2006?
Oui.
Donc, vous n'étiez pas tenté de postuler à la députation provinciale ou nationale?
Non, à l'époque, j'étais beaucoup plus préoccupé par ma thèse. Et en 2006, j'avais à peine deux ans, en fait, officiellement en Belgique. Je tenais à asseoir ma thèse avant de revenir. Donc, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je voulais prendre un peu de temps de recul, quoi. La deuxième raison, justement, je disais que je suis revenu cette fois-ci, effectivement, en me disant, bon, je pourrais sûrement concourir à la fin de l'année ou en début d'année prochaine à la députation nationale. Je vais aller sur mon chemin.
Ah, vous avez des gens
qui sont là? Oui, c'est sûr. Je reviens pour retourner définitivement chez moi, quoi. Voilà.
Alors, vous venez pour vous présenter comme indépendant?
Pour le moment, je crois que je suis membre d'un parti politique. Je suis membre de l'Union pour la Reconstruction du Congo, l'UREC.
Le parti de Dr. Kassala.
Le Dr. Kassala, où je suis son conseiller politique. Et en même temps...
Il était candidat malheureux en 2006?
Oui, mais candidat bien aligné en 2006.
Aussi. Ah oui, quand même. Et lui-même, le Dr. Kassala, est-ce qu'il va se représenter en 2011?
Oui, je voudrais assurer tout le monde que Dr. Kassala sera candidat à la présidence de la République.
Et... Mais il fait sa politique à l'extérieur, au lieu d'être sur place?
Non. Vous savez, le parti, c'est un parti, le parti, ce n'est pas Kassala. Le parti est constitué des organes différents qui ont des tâches spécifiques, et chaque organe fait sa part, remplit sa tâche comme il se doit, et lui-même est en route, récemment, pour
retourner au Congo.
Ça, c'est vous qui le dites. Bon, au Saint-Pierre, c'est peut-être parce que...
Vous savez, les
gens sont habitués à faire beaucoup de bruit ici. Mais dans le fond, est-ce que c'est ça le travail de fond? Le travail de fond, je crois que c'est le travail de cabriage du terrain, le travail de contact avec la population, connaître les aspirations de la population, pour pouvoir défendre ou gérer ses aspirations si on est aux affaires. Je crois que c'est ça qui est plus important que de faire du bruit sur les antennes, mais il y a un porte-parole, qui est le secrétaire général Jean Minico, qui prendra parole, si vous voulez l'entendre parler. Mais récemment, le siège était transféré. Il sera visible, il prendra position. Il aura, si vous voulez, vous pensez que c'est cela qui est important, on le fera sans problème. On a les moyens de le faire et on a
la capacité. Vous avez la dernière minute pour distribuer des t-shirts?
Non. Nous ne sommes pas dans cette approche-là. Je ne pense pas que j'aurais rallié Kassala. Si c'était cela la vision, je suis un homme assez exigeant avec moi-même pour tomber dans ce piège-là. Non.
Le 9 janvier, sur Bobo, Katia, Kalubi, nous sommes à la fin de notre entretien.
Ah, déjà.
Ça va 8
heures.
Vous étiez déjà dans le bain, quoi.
Je vous en prie.
Alors, dites-nous comment vous passez vos moments de détente.
Je suis un homme très ouvert, pas de caractère. Je ne suis pas un homme fermé. Je fais tout ce que tout le monde fait. J'aime le sport. J'assiste au match de football, j'aime le football. Essentiellement, j'ai joué jusqu'à un certain temps, même en Europe, j'ai fait le football loisir. J'aime beaucoup la distraction, j'aime bien les visites, j'aime bien les excursions avec des amis, visiter les musées, aller assister à des conférences. C'est aussi beaucoup plus tourné vers la culture. La musique de moins en moins maintenant, oui, bon, l'âge est dans.
Pourquoi? Parce que vous avez pris de l'âge?
Oui, l'âge est dans, bon, enfin, j'écoute la musique, mais pas plus comme avant. Beaucoup plus tournée vers la culture, la science.
Alors vraiment, à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment, particulièrement tous les Kanangais qui nous suivent en ce moment, qui seront sûrement contents de vous entendre sur les ondes des Radio Okapi.
Oui, les saluer chaleureusement et fraternellement, et leur dire que je suis de retour, que je serai avec eux bientôt. Merci pour ceux qui gardent un bon sourire de moi. Merci aussi à ceux qui ne le gardent pas, c'est normal. La vie, elle est ainsi faite aussi.
Peut-être en Chiluba aussi
Je vis en dehors de nos frontières et vous diffusez une information de qualité, je voudrais mentionner cela parce que moi je suis direct. Hein.
Merci beaucoup, merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Benoît Jonté, Chibobo, Katia Kalubi, ancien gouverneur de la province du Kasse-Occidental et ancien conseiller du chef de l'État en charge de la territoriale et la décentralisation. Merci à Héritier Tidiakala qui était à la technique au micro que l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Votre site de programme sur la fréquence de la paix.